Vous écoutez, on lit pour vous.
Petit guide de comportement à adopter. Un texte de Fanny Arcan, paru le 16 février 2025 dans la presse. Vous marchez dehors et vous apercevez une personne inconsciente, étendue par temps froid sur un banc de parc. Vous hésitez. Comment agir face aux personnes en situation d'itinérance visible? Ne pas passer son chemin. Si une personne étendue dehors semble inerte, il vaut mieux s'assurer qu'elle est consciente, surtout si sa position est anormale. On peut se pencher, lui parler fort ou, à la limite, lui donner une petite tape sur la jambe, propose André Leroux, coordonnateur à l'insertion et au maintien en logement à la maison du père. La personne se réveillera peut-être, mais si elle ne montre aucun signe de vie, il faut composer le 911 sans hésiter, ajoute l'intervenant. Les personnes les plus investies peuvent aussi se munir d'une trousse de naloxone pour être prêtes à intervenir auprès d'une personne en surdose. Les pharmacies en fournissent gratuitement et des formations pour bien administrer le médicament sont accessibles en ligne, ajoute Mila Alexova, coordonnatrice des services de proximité à la mission Old Brewery. Savoir quand agir. Voir des personnes en situation d'itinérance parler toutes seules ou gesticuler dans l'espace public peut susciter un malaise. Mais juste parce qu'une personne dérange, ça ne veut pas dire qu'elle est dangereuse, souligne Caroline Grimard, professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Le plus important, dit André Leroux, c'est de rester calme et d'éviter l'affrontement. Si une personne semble en souffrance, on peut l'aborder et lui proposer de l'aide tout en observant une distance sécuritaire. Peut-être a-t-elle tout simplement froid ou faim. Un appel au 811 permet de s'informer sur les ressources adaptées. Mais si cette personne se met elle-même en danger ou présente un risque pour les autres, composer le 911 est de mise. C'est important de dire dans l'appel que la personne semble désorganisée et qu'elle a besoin d'aide pour qu'on envoie une équipe spécialisée comme l'EMIS, insiste André Leroux. Donner sans juger. Donner ou pas aux personnes qui sollicitent de l'argent, c'est un choix personnel. Mais si on donne, on ne juge pas, insiste André Leroux. Ce n'est pas à nous de décider ce que la personne fait de cet argent-là. On peut aussi leur acheter quelque chose, comme un café ou des produits d'hygiène féminine, mais il vaut mieux éviter d'imposer un don qu'ils n'ont pas demandé, ajoute André Leroux. Si on n'a pas d'argent à offrir, une salutation ou un sourire est toujours bienvenu, indique Caroline Grimard. Après tout, les personnes en situation d'itinérance vivent quotidiennement de l'isolement et du mépris, rappelle-t-elle. Juste offrir une petite jasette de 2 minutes ou demander si la personne a froid, ça fait une grosse différence. Aider les personnes en situation d'itinérance va au-delà de l'action individuelle, ajoute Mila Alexorva, qui invite les citoyens à soutenir des solutions à long terme aux causes sous-jacentes de l'itinérance, comme la crise du logement. En parler aux enfants. Les enfants d'aujourd'hui risquent d'être régulièrement confrontés à l'itinérance. Raison de plus, selon Caroline Grimard, d'en parler avec eux avec honnêteté, mais à la hauteur de leur âge. Les enfants gagnent à savoir dès leur jeune âge comment coexister avec les personnes en situation d'itinérance, selon Céline Bellot, professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Les parents peuvent inviter leurs enfants à offrir des sous à ceux qui mendient. Ils peuvent aussi tout simplement les encourager à saluer les personnes qui quêtent de l'argent, poursuit la chercheuse. Les études montrent que les enfants ont une empathie très forte pour les personnes démunies, affirme-t-elle. c'est en grandissant, avec les représentations sociales de la dangerosité et la construction de la peur, qu'ils perdent ce réflexe compassionnel de base. C'était « Petit guide de comportement à adopter », un texte de Fanny Arcan, paru le 16 février 2025 dans La Presse.
Nouveau conseil d'administration entièrement féminin à l'Institut Tchakapèche, un texte de Jérôme Gilles Couture, paru le 1er février 2025, dans Espace autochtone. L'Institut Tchakapèche, organisme œuvrant à la préservation et au rayonnement du patrimoine culturel de la nation Innu, a présenté les nouveaux membres de son conseil d'administration jeudi. La poétesse Rita Mestokocho, originaire de la communauté d'Ekwanitschit, en assurera la présidence, reprenant ainsi un poste qu'elle avait déjà occupé entre 2005 et 2007. Ma priorité sera vraiment de m'assurer que l'Institut Tchakapèche soit vu comme une organisation qui est à l'écoute de ceux qui travaillent dans les communautés pour préserver la langue, la culture, explique-t-elle à Espace autochtone. Le conseil d'administration est formé de personnes nommées par le conseil de bande de chacune des 8 communautés membres de l'Institut. Chaque communauté nomme 2 personnes, indique la nouvelle présidente. Une qui siégera au conseil d'administration et une qui la représentera à l'Assemblée générale annuelle. Cette fois-ci, seules des femmes ont été désignées par les communautés, une première dans l'histoire de l'organisation qui existe depuis 1978 et qui œuvre à la préservation et au rayonnement du patrimoine culturel innu. Leur grande implication n'a rien de surprenant, sachant que chez les Innu, les femmes ont toujours eu un rôle extrêmement important dans la transmission culturelle. Les femmes ont la force d'avoir une parole qui est englobante, inclusive. Quand nous parlons, on le fait en pensant à nos frères, nos pères, nos oncles. On essaie d'être comme une grande famille, dit Rita Mestokocho. L'héritage d'un grand mentor. La nomination du nouveau conseil d'administration marque un nouveau départ pour l'Institut Tchakapèche, alors que son dernier président, Alexandre Mackenzie, qui en était aussi le fondateur, est décédé le 11 mai dernier lors d'un accident de motoneige survenu en territoire. Selon Rita Mestokocho, ce dernier avait toujours fait figure de mentor pour quiconque souhaite protéger et promouvoir la culture innu. Il, Alexandre Mackenzie, était un monument. Il incarnait la force de la culture, de la langue et du territoire. Il voyait toujours le positif et était d'une grande simplicité. Je sais que son esprit continuera de nous guider et de teinter nos manières d'agir, dit Rita Mestokocho. Elle explique qu'au sein de l'organisation, il y a toujours eu la présence d'aînés autour de la table pour aider à guider les plus jeunes. Je me réjouis de voir que des personnes de différentes générations ont été nommées au CA. Ça nous permettra d'avoir une belle diversité au niveau des expériences et de leur place dans leurs communautés respectives, indique-t-elle. Préserver la langue. En ce qui concerne la préservation de la langue, Rita Mestokocho souligne que depuis son dernier mandat en 2005, la situation s'est détériorée, bien que des efforts soient déployés un peu partout. Il y a dans chaque communauté des enseignants, des parents et plusieurs personnes qui travaillent fort, de près ou de loin, pour tenter de préserver la langue. Elle regrette cependant que de plus en plus de jeunes parlent davantage le français ou l'anglais à la maison, dans les communautés, plutôt que l'Inu Aimun. Il faut trouver le moyen d'inciter les parents à continuer de parler notre langue maternelle à la maison. J'ai confiance que si on va à la rencontre des jeunes, qu'on les écoute, on arrivera à identifier leurs besoins. Cet objectif est fondamental pour Rita Mestokosho afin de permettre aux jeunes de sa nation d'atteindre leur plein potentiel. Et ce, peu importe le parcours scolaire qu'ils choisissent de prendre, conclut-elle. C'était Nouveau conseil d'administration entièrement féminin à l'Institut Chacapèche, un texte de Jérôme Gilles Couture, paru le 1er février 2025 dans Espace autochtone.
L'être humain est-il foncièrement monogame? Un texte de Caroline Châtelard de la presse canadienne paru le 14 février 2025 dans Le Devoir. Le brave Cupidon nous ramène chaque 14 février au cliché romantique monogame, exclusivité, âme sœur et consort inclus. Mais sur quelle base se fonde-t-il? Ce modèle est de plus en plus étudié et de plus en plus remis en question. Anthropologues, sexologues et historiens se penchent sur son éventuelle validité qui reviendrait presque à déterminer le sexe des anges. Oui, on parle de toi, Cupidon. Et comme pour toutes les questions complexes, il n'y a pas une seule bonne réponse. Avant toute chose, mettons les cœurs sur les i. Quand on parle de monogamie, il faut préciser que l'on en répertorie trois types. Il y a d'abord la monogamie dite sociale, où un couple élève ses enfants ensemble mais s'autorise à avoir plusieurs partenaires sexuels. On compte aussi la monogamie sérielle, qui domine nos pratiques aujourd'hui, à savoir enchaîner les relations avec un seul partenaire et lui être fidèle pendant le temps de la relation. Et enfin, il y a celle qui a fait la fortune de Disney et a bercé notre enfance, la monogamie pure et dure qui implique d'avoir un seul partenaire durant toute sa vie. De l'autre bord, il y a la polygamie. Le type de polygamie la plus répandue chez l'être humain est la polygynie, c'est-à-dire qu'un homme a plusieurs femmes. L'inverse, la polyandrie, se fait rare dans l'histoire des civilisations humaines. Mononormativité. La civilisation occidentale, pour sa part, a depuis longtemps érigé la monogamie comme la norme, un objectif à atteindre et un idéal. Pourtant, certains psychologues évolutionnistes estiment que l'homme, à l'image de la plupart des animaux, aurait été polygame à l'origine. Les psychologues évolutionnistes David P. Barash et Judith Eve Lipton soutiennent dans leur livre « The Myth of Monogamy » que l'humain est la seule espèce fonctionnant par pair à avoir un sérieux penchant pour l'adultère et que, même chez les animaux réputés pour leur fidélité, les petits à côté sont légions. Ils en concluent que l'humain est, comme bien des animaux, pas véritablement monogame, mais seulement plutôt monogame. C'est à peu près ce que soutient aussi Antonius Rachad, professeur titulaire retraité du département de sociologie de l'UQAM, qui note que la réponse dépend de comment on définit la polygamie. Si on définit la polygamie comme le fait d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, c'est une chose. Mais si on définit la polygamie comme le fait d'avoir un contrat de mariage avec plusieurs personnes, c'en est une autre, analyse ce spécialiste des sociétés arabes contemporaines. Il en déduit que, si on définit la monogamie, non pas d'un point de vue légal, mais d'un point de vue sociologique, alors les sociétés occidentales sont polygames. Notre nature serait donc plutôt polygame? Encore faut-il savoir ce qu'on veut dire par nature humaine, fait remarquer Carl Rodrigue. Le docteur en sexologie et professeur au département d'études sur la sexualité, le mariage et la famille à l'Université Saint-Jérôme de Waterloo pointe que ce n'est pas si simple. À plus forte raison lorsqu'il s'agit des relations humaines. Souvent, les gens vont apporter cette conception que ce qui est naturel, c'est ce qui se passe en moyenne, donc la normalité statistique, indique-t-il. Mais quand on regarde bien, il y a toutes sortes de variations associées à ce qu'on pourrait appeler des stratégies d'union sexuelle et amoureuse. Il ajoute que ces stratégies cohabitent au sein de notre espèce et cohabitent même dans chaque individu. Ce que le docteur en sexologie explique, c'est que plusieurs individus vont connaître différentes configurations relationnelles, sexuelles et amoureuses dans leur vie. Un même individu peut connaître des périodes de célibat sexuellement actif ou inactif, de couple monogame en série ou encore de non-monogamie consensuelle, couple ouvert, échangisme, polyamour, etc., au gré des différentes phases de sa vie. La nature et la culture. Dans ce cas, pourquoi le modèle monogame s'est-il imposé en Occident alors que la polygamie est restée ailleurs? La réponse ne dépasse malheureusement pas le stade des hypothèses multiples. Il faut dire que les anthropologues n'étaient pas là pour observer les interactions des premiers humains. Plus sérieusement, le professeur Rodrigue explique que, dans les sociétés patriarcales, la monogamie aurait servi de stratégie pour assurer que la descendance et la transmission du patrimoine familial s'effectuent selon la lignée du père. Il évoque aussi des travaux en psychologie évolutionniste sur le « pair bonding », selon lesquels la mise en couple favoriserait la survie et l'investissement des parents dans leur progéniture. Ces travaux reposent sur la prémisse selon laquelle ce lien est fondé sur la monogamie. Pourtant, ces idées sont mises au défi par des faits historiques et culturels au sujet de sociétés qui cautionnent le fait d'avoir plusieurs partenaires ou qui élèvent les enfants de façon communautaire. Le professeur Rachad évoque de son côté la pratique de la polygamie dans les sociétés musulmanes comme une prolongation de ce qui existait déjà. Le sociologue indique que, dans l'écrasante majorité des sociétés tribales, les rapports sociaux étaient polygames et patriarcaux. L'islam n'a fait que sacraliser des rapports tribaux qui étaient dominants et y a ajouté des restrictions. Il cite d'ailleurs l'une d'elles, qui rend la polygamie telle qu'elle est décrite par le Coran particulièrement difficile, à savoir qu'un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes, mais doit les traiter toutes de façon égale. Le Coran a ajouté « Vous n'arriverez jamais à le faire », lâche-t-il dans un rire. Les institutions jouent un rôle important dans nos tendances relationnelles. Nous sommes des mammifères, mais également des créatures culturelles. C'est-à-dire que notre histoire, notre société, notre religion, notre éducation, bref, tout ce qui fait notre environnement, nous l'intégrons inconsciemment dans notre construction intellectuelle et notre processus décisionnel. Mylène Allary, chercheuse à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, évoque une pression culturelle qui va avoir une grande influence dans les préférences des gens. De toutes ces raisons possibles, aucune ne fait entrer l'amour en ligne de compte. Voilà qui ferait rager un certain Angelot. Carl Rodrigue mentionne que la conception de la monogamie fondée sur l'amour romantique est plutôt récente sur le plan historique. Celle-ci suppose que l'amour implique nécessairement un besoin de fusion et d'exclusivité sexuelle et amoureuse. Mais elle est de plus en plus remise en question au sein de la population et dans le domaine de la recherche. La grande spécialiste de la sexualité à l'UQAM, la professeure Chiara Piazzesi, abonde en ce sens. L'exclusivité donne un sentiment d'exceptionnalité. Pourtant, les couples polyamoureux peuvent éprouver exactement la même sensation. La non-monogamie consensuelle, le fait de ne pas être exclusif, est-ce que ça affaiblit l'engagement qu'on a envers les autres? Absolument pas. On n'a aucune donnée pour dire ça, insiste la sociologue. Cela tend donc à prouver que notre quête d'exceptionnalité, d'intensité affective n'est pas nécessairement conditionnelle à une relation monogame. De tout ça, Carl Rodrigue retire que, pour répondre à la question de savoir si l'être humain est fait pour la monogamie ou la polygamie, Il faut simplement reconnaître que toutes les variations possibles existent, cohabitent, fonctionnent chacune à leur manière et dans leur contexte, mais sont en tension les unes avec les autres. Quelle que soit sa configuration relationnelle, ce n'est ni naturel ni culturel, c'est les deux. Madame Allary conclut : Ça dépend vraiment des gens. Je pense que c'est ça le message le plus important. C'est qu'il y a vraiment une diversité des expériences, des besoins, des envies. C'est donc important d'être à l'écoute de soi-même et d'être capable aussi d'en parler avec les personnes qu'on aime pour être capable de trouver l'arrangement qui convient le mieux à tout le monde. C'était « L'être humain est-il foncièrement monogame ?» un texte de Caroline Châtelard de la presse canadienne paru le 14 février 2025 dans Le Devoir.
Ballet royal de Winnipeg, entre tokenisme et réconciliation. Une chronique de Robert Falcon Ouellet, parue le 26 février 2025 dans Espace autochtone. Le Ballet royal de Winnipeg, l'une des plus anciennes institutions culturelles du Canada, se retrouve plongé dans la controverse après la démission de son cercle consultatif autochtone. Ce groupe, formé en 2018, avait pour mission d'aider le ballet à refléter les diverses cultures du Canada, mais ses membres se sont progressivement sentis frustrés de l'absence d'engagement significatif de la part de l'organisation envers les communautés autochtones. Cette histoire met en lumière un problème plus large auquel de nombreuses organisations tentent de faire face pour montrer leur engagement envers la réconciliation avec les Autochtones. Malgré leurs efforts pour inclure les perspectives autochtones, nombreuses sont celles qui possèdent des cultures et des structures bien établies, résistantes au changement. Pour ces organisations, offrir des gestes symboliques ou une participation token est souvent suffisant pour remplir leurs efforts de réconciliation, mais un véritable engagement et une véritable collaboration restent rarement réalisés. L'effort du ballet pour s'engager avec les peuples autochtones n'est pas nouveau. Il y a plus d'une décennie, Going Home Star a été produit, abordant l'héritage des pensionnats pour autochtones. À l'époque, cela semblait être un véritable effort pour ouvrir un dialogue sur l'histoire difficile des peuples autochtones au Canada. Cependant, l'expérience plus récente du cercle consultatif, qui a conduit à une démission en masse, montre à quel point de tels efforts peuvent être superficiels si la culture et le leadership de l'organisation n'évoluent pas. Danielle Morrison, cofondatrice du Cercle consultatif, a souligné que le ballet n'avait jamais offert de représentation au conseil d'administration, même après des demandes répétées. Elle a indiqué que le groupe était réduit à un rôle symbolique, appelé uniquement lorsque la compagnie faisait face à des risques réputationnels ou avait besoin de remplir ses quotas de diversité, autrement dit, cocher les cases. Un tel tokenisme, diversité de façade, ne gratte que la surface de ce que la véritable réconciliation devrait être. Il est facile pour les organisations de revendiquer leur engagement envers la réconciliation tout en ne partageant pas le pouvoir ou les ressources et en résistant à tout changement réel de leurs structures internes. Pendant mon mandat de député pour Winnipeg Centre, le Ballet royal de Winnipeg est souvent venu me demander de l'aider à renouveler son financement et construire une nouvelle résidence pour ses étudiants en ballet. En tant que seul député autochtone à l'époque, j'avais estimé que c'était une occasion de pousser pour un engagement plus profond avec la communauté autochtone. Ils ont créé le cercle consultatif, mais l'effort a fini par stagner. D'autres députés, comme Dan Vandal et Terry Duguid, n'ont pas incité davantage le ballet à évoluer en une organisation véritablement canadienne qui représenterait authentiquement les peuples divers du Canada, y compris les communautés autochtones. Il y a un problème plus large en jeu. De nombreuses organisations, y compris le Ballet royal de Winnipeg, sont coincées dans des modèles de représentation culturelle dépassés. Elles peuvent chercher à impliquer les Autochtones lorsque cela est pratique ou lorsque cela profite à leur image, mais elles sont réticentes à partager véritablement le pouvoir, les ressources ou l'autorité décisionnelle. Des pratiques à décoloniser. Leur résistance au changement peut être enracinée dans un désir de maintenir le contrôle sur le fonctionnement de leurs institutions et sur la manière dont elles décident ce qui est considéré comme une expression culturelle acceptable. Ces organisations fonctionnent selon une vision du monde qui reste centrée sur des normes coloniales et considère les voix autochtones comme périphériques plutôt qu'intégrales. Pour le Ballet Royal de Winnipeg, cela signifie qu'il reste pris dans une mentalité coloniale, cherchant à imiter des institutions internationales comme le London Ballet ou le Moscow Ballet, sans reconnaître qu'un ballet canadien devrait être un ballet qui reflète notre propre paysage culturel diversifié qui intègre les peuples autochtones. Une véritable compagnie de ballet canadienne ne reconnaîtrait pas seulement l'histoire et les contributions des peuples autochtones, mais travaillerait également aux côtés des artistes et des leaders autochtones pour réinventer ce que le ballet peut être dans ce pays. Cela nécessiterait un engagement à décoloniser leurs pratiques, à partager le pouvoir et les ressources et à être ouvert à l'évolution vers une institution plus inclusive. Pourquoi le Canada devrait-il financer des organisations qui ne construisent pas notre nation? Que signifie être Canadien? Devons-nous être une culture occidentale générique ou notre culture doit-elle venir de la terre avec ses propres esprits? La représentation token n'est plus suffisante, et les peuples autochtones ne sont plus disposés à porter seuls le fardeau émotionnel et intellectuel de la réconciliation. Il est temps pour les institutions culturelles de passer à l'action de manière significative, pas seulement par des gestes symboliques, vers un partenariat véritable, un leadership partagé et le respect des manières de connaître et d'être des peuples autochtones. Si le Ballet Royal de Winnipeg, ou toute autre institution similaire, est véritablement engagé à refléter l'identité culturelle du Canada, il doit aller au-delà du statu quo et s'engager avec les communautés autochtones de manière à dépasser les gestes symboliques. S'ils sont réticents au changement, alors il est temps de couper le financement et une organisation véritablement canadienne dans l'esprit prendra sa place. Coloniser ou décoloniser, telle est la question. Un ballet figé dans une vieille tradition. Mais une rose sous un autre nom, tout de même, doit être sauvage, canadienne et sans chaîne. C'était Ballet Royal de Winnipeg, entre tokenisme et réconciliation. Une chronique de Robert Falcon-Ouellette, parue le 26 février 2025 dans Espace autochtone.